On continue aujourd'hui notre série sur la croix. La semaine dernière, pasteur Jean-Frère nous a parlé de la croix et on a vu ensemble comment, en regardant tous les différents personnages qui ont participé à emmener Jésus à la croix, comment on peut s'identifier tous à l'un d'entre eux. Comment nous sommes tous, à quelque part, un peu Judas, un peu les pharisiens, un peu Pilate, qui ont livré Jésus, mais que finalement, c'est Jésus qui se donne lui-même. C'est Jésus qui s'est livré lui-même à la croix, pour nous. Et je sais que la semaine prochaine, on va continuer, on va regarder encore plus ce qui se fait à la croix, pourquoi on peut être si fier de la croix. Mais alors, quand je lisais les évangiles et que je réfléchissais au thème de la croix, je réalisais comment Jésus, avant même de mourir sur la croix, Jésus a déjà utilisé le terme, l'expression de la croix. Jésus a déjà utilisé l'image de la croix comme une image, hein, comme un moyen de nous faire comprendre quelque chose. Dans un discours que tous les auteurs, les quatre évangiles vont parler, ont cru bon de rapporter. Et habituellement, quand une histoire ou un discours est repris dans les quatre évangiles, c'est parce que c'est important. C'est parce qu'il y a quelque chose, particulièrement plus important à comprendre. Je vous invite à sortir vos Bibles, à sortir vos applications et à ouvrir dans Marc 8, à partir du verset 34. Marc 8, verset 34. Ça nous dit, « Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra porter sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Matthieu 10, au verset 38, on trouve la même idée. Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il y a plusieurs reprises avant même de mourir sur la croix, Jésus va utiliser l'expression « porter sa croix », « se charger de sa croix ». Et là, on a entendu plein d'interprétations ou d'applications de ce que ça peut signifier. Hein? Il y en a qui vont dire, « Ah, mais quand on voit Jésus, c'est sacrifié pour nous, donc porter sa croix, c'est se sacrifier pour les autres. » Ou, « Ah, il y a une expression en anglais qui dit, « I have to bear my cross. » Et quand on vit des moments de souffrance, où on a des défauts, des difficultés, on dit, « Ah, c'est la croix que je dois porter. » Ou d'autres qui vont dire, « Ah, ben c'est d'accepter qu'il y a de la souffrance dans ce monde. » Et ou c'est d'aider les autres dans leur souffrance, un peu comme Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Et on prend cette expression « porter sa croix » pour plein d'applications. Mais si on prend le temps d'y réfléchir vraiment, on se rend compte que Jésus n'est pas encore mort sur la croix quand il dit ça. Les disciples et la foule ne peuvent pas utiliser cette référence de Jésus qui est mort à la croix pour comprendre ce que Jésus essayait de leur dire. Et habituellement, quand Jésus utilise des illustrations et des images, bien, il utilisait des images que les auditeurs pouvaient comprendre. Jésus ne parlait pas de manière mystérieuse ou mystique, puis dire « un jour, vous allez comprendre ». Quand Jésus parlait, et surtout quand il utilisait des images, c'était pour que les gens comprennent maintenant. Donc, la question qu'on doit se poser, que signifiait la croix pour ceux qui l'entendaient, ce message de Jésus? La croix, ça n'avait rien de positif pour les gens de l'époque. Hein, la croix, c'était pas ça ne représentait pas le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Nous, quand on voit la croix, on voit quelque chose de beau. Hein, on voit, ah, wow, Jésus qui est mort pour nous, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui a porté notre péché. La croix, à l'époque, ça ne représentait pas l'amour de Dieu ou la victoire sur les péchés. Ce n'était pas un symbole qu'on affiche à quelque part ou qu'on porte pour s'identifier à une communauté de foi. La croix, ça avait... En fait, la même connotation culturelle que pourrait avoir la chaise électrique aujourd'hui. Hein, si on vous disait, si vous voulez suivre Jésus, il faut s'asseoir dans votre chaise électrique. Ça crée un choc. Littéralement, oui. La croix, c'est une forme d'exécution extrêmement dégradante extrêmement souffrante. Et pour quelqu'un du premier siècle, pour un auditeur de Jésus de l'époque, la croix pouvait juste signifier une chose, la mort. La mort par crucifixion. Porter sa croix signifiait faire face à la mort. Porter sa croix signifiait de se diriger vers sa mort tout en étant humilié et ridiculisé en s'y dirigeant. On faisait porter la croix aux condamnés à mort qui devaient traverser la ville alors que tous les gens les regardaient, les gens riaient d'eux, les gens les insultaient. Et Jésus va dire, portez votre croix, chargez-vous de votre croix. Et pour bien comprendre ce que Jésus essaie de dire, bien, il faut premièrement comprendre le contexte dans lequel il parle. Qu'est-ce qui se passe? Partout où Jésus allait, il y attirait des foules. Il y avait plein de gens qui venaient le voir. Plein de gens qui étaient intéressés, qui entendaient parler de la saveur du mois. Hey, Jésus, sais-tu ce qu'il fait? Hey, il donne du pain. Hey, il guérit des gens. Hey, il dit plein de belles choses. Puis il y a plein de gens qui suivaient Jésus. Il y en a qui disaient, oh, c'est le Messie. Il y a quelqu'un qui m'écoute sur YouTube. Et souvent, ceux qui venaient le voir ou qui le suivaient avaient une mauvaise vision de qui Jésus était ou de ce que Jésus venait accomplir comme Messie. Ils pensaient que le Christ allait les libérer des Romains, qu'il allait établir un royaume terrestre et politique. D'autres espéraient juste qu'il allait continuer à multiplier les pains et les poissons. Free food! Ils venaient voir Jésus. Ah, c'est pour ça que Jésus va dire à un moment donné, « Je suis le pain de vie. » Il va confronter ceux qui viennent juste pour le pain. Il y en a qui venaient pour les miracles, pour les guérisons. Il y en a qui venaient pour juste voir, hey, « C'est qui ce Jésus-là? » Jésus était populaire. Il était intéressant. Mais Jésus veut les confronter. Jésus veut remettre les choses en place parce qu'il connaît leur cœur. Jésus savait qu'il désirait les bénéfices de ce qu'il faisait plutôt qu'une compréhension de qui il était. Les gens venaient le voir parce qu'ils aimaient les cadeaux et moins la vie à laquelle Jésus les appelait. Et Jésus va les confronter dans leur motivation, dans leur niveau d'engagement, en affirmant qu'il y a un coût important pour ceux qui veulent le suivre. Regardons dans Luc 14, versets 25 à 33. Luc 14. Jésus va dire, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » En effet, si quelqu'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus affirme que le suivre, être son disciple, ça nécessite de comprendre le coût, de calculer la dépense, de comprendre ce que ça implique. Et à l'époque, ça confrontait les gens de dire, « Oh, Jésus nous demande quelque chose de difficile, de porter notre croix. » Ce n'était pas un symbole de « Donnez-vous pour les autres » ou « Ce n'était pas quelque chose de beau, c'était quelque chose de dur, quelque chose. » C'était une invitation à peut-être la souffrance, à de l'humiliation. Et Jésus dit, « Si tu veux me suivre, voici ce que ça va impliquer. » Jésus est honnête avec les gens. C'est encore vrai aujourd'hui, hein? Il y a encore plein de gens qui s'approchent de Jésus sans pleinement réaliser ce que ça implique, sans avoir calculé le coût. Parce qu'on vous parle, on vous a parlé d'amour, on vous a parlé de bénédiction, on vous a parlé de paix, on vous a parlé de joie, hein? Toutes des choses qui vraiment se retrouvent comme disciples de Jésus. Il n'y a pas de fausses promesses. Ou parce que vous êtes venu ici, vous êtes senti bien parmi la communauté de chrétiens, vous êtes senti bien à l'Église. Mais ce matin, Jésus veut vous défier. Jésus veut vous amener à réaliser qu'il y a un prix pour le suivre. Parce que Jésus ne nous invite pas à le suivre sans pleinement savoir toutes les implications de notre choix. Jésus ne nous demande jamais de lui obéir sans savoir pourquoi nous le faisons. On ne connaît pas tout, mais Jésus nous avertit déjà. Si tu veux me suivre, voici ce que ça va impliquer. Si tu veux me suivre, ne sois pas surpris, mais ça ne sera pas toujours facile. Il va falloir que tu portes ta croix. Et Jésus, ce matin, il est honnête avec vous. Jésus était honnête avec les gens-là, il continue de l'être. Et c'est peut-être pas le message le plus « Oh, wow, merci Seigneur pour ce que tu fais », mais c'est un message qui nous défie. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Est-ce que je suis prêt à porter ma croix? Et avant de répondre, regardons ensemble ce que ça signifie. On va regarder plus en détail le verset qu'on a lu au début, Marc 8. Marc 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix. En mettre la croix sur ses épaules, si on imagine ce que c'était pour un chrétien de l'époque, ça signifiait de l'opposition officielle. Vous êtes traité comme un criminel. C'était les criminels qui portaient leur croix, ceux qui avaient été condamnés officiellement. Et premièrement, c'est de l'opposition. C'est vivre avec le rejet, avec la honte des autres. Pas notre honte à nous, mais les autres qui ont honte de nous. Parce que ceux qui portaient leur croix, ceux qui étaient crucifiés, pour les Juifs, ils étaient maudits. C'était une malédiction. Et donc, les gens du peuple les regardaient avec honte. Leur famille les rejetait. Les gens autour d'eux les rejetaient. C'est de vivre dans la souffrance. Porter sa croix, c'est se diriger vers la croix, vers une mort très souffrante. Et c'était ultimement la mort. Opposition, honte, souffrance. Je pense qu'on l'a dans le PowerPoint. Souffrance et mort. Quand Jésus dit « Chargez-vous de votre croix », le mot « croix » pour les gens de l'époque, c'est ça que ça signifiait. Ce n'est pas une bonne invitation. On ne fait pas un dimanche matin qu'on veut remplir l'église en disant « Ce dimanche, opposition, honte, souffrance et mort. » Non, on vend des hot-dogs. Et non, les hot-dogs sont là pour se réunir ensemble. J'espère que vous n'êtes pas venus juste pour des hot-dogs. Et Jésus confronte, et vous allez voir, si vous lisez le texte, après, il y a beaucoup de gens qui quittent. Et Jésus va dire qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Le « moi » n'aime pas ces choses-là. Le « moi » voit ça et dit, « Est-ce que ça t'intéresse? » Oh non, 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 non. Voir tout ça, cette annonce de ces choses-là, ça nous repousse, ça nous répulse. On fait « Ah non! » Et le « moi » veut fuir les implications de porter sa croix. Et c'est donc nécessaire de dire non au « moi ». C'est moi, je dis non à moi-même. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le nouveau « moi ». La nouvelle personne que je suis en Christ, qui renonce au désir de l'ancien moi. Le mot renoncer en grec, c'est arnéomai. Est-ce qu'on peut dire ensemble arnéomai? Qui veut dire refuser de suivre. Quand Jésus dit qu'il doit renoncer à lui-même, c'est qu'il faut que je refuse de suivre moi-même et je choisisse de suivre Christ. Être un disciple de Jésus, le suivre, c'est renoncer à mes désirs, prendre la croix et choisir de suivre Christ. C'est mourir à moi-même pour laisser Christ vivre en moi. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ceux qui suivent Jésus ont mis sur la croix leurs propres passions, leurs propres désirs pour suivre ce que Jésus a pour eux. Parce que je désire davantage, je désire Jésus davantage que d'éviter toutes ces choses, d'éviter l'opposition, d'éviter la honte, d'éviter la souffrance, d'éviter la mort. Est-ce que ça veut dire que toutes ces choses-là vont m'arriver? Pas nécessairement. Mais Jésus veut les avertir. Jésus nous met toutes les conditions devant nous. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise. J'aime tellement Jésus, je veux tellement le suivre, que même si je sais que ces choses-là sont possibles, je choisis de renoncer à moi-même. Le vieux moi est mis à mort, mais c'est le nouveau moi qui choisit Christ, qui choisit l'éternité, qui choisit le salut. Et là, Jésus va expliquer pourquoi. Il ne va pas juste dire, portez votre croix, acceptez qu'il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir de la souffrance. Mais Jésus va expliquer. Dans Marc 8, 35, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il y a un paradoxe ici. Sauver sa vie égale la perdre. Mais perdre sa vie égale la sauver. On fait « Hein? » On parle ici de deux vies différentes. La vie sur ce monde et la vie éternelle. Dans Jean 12, versets 24 à 26, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, si on peut remettre l'image d'avant, ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde, celui qui voudra tout ce qui est bien dans ce monde, va éventuellement perdre la vie éternelle. Parce que ses yeux ne sont pas sur les bonnes choses. Il préfère suivre ses propres passions, ses propres désirs, plutôt que suivre Christ. Mais que celui qui est prêt à perdre sa vie dans ce monde va retrouver, va gagner la vie éternelle. Jésus dit que si je veux sauver ma vie, c'est-à-dire que si je veux éviter de porter ma croix, si je veux chercher l'acceptation au lieu de l'opposition, la gloire pour moi au lieu d'être humilié par les autres, au lieu de la honte. Le confort au lieu de la souffrance. La sécurité au lieu de la mort. Si je cherche toujours ces choses-là, mon confort, mon bien-être, l'acceptation des gens, la gloire que les gens ont pour moi, bien éventuellement, je vais perdre la vie. Et on parle ici de la vie éternelle. Je vais juste demander aux parents de muter le cellulaire de votre enfant. Merci. Dans notre vie, souvent, et c'est ce que les gens du monde cherchent, hein, l'acceptation. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment est-ce que les autres me voient? L'opinion des autres. La gloire. On va être reconnu. On va être apprécié. On va être élevé. Le confort, on veut être bien. On ne veut pas souffrir. On veut des belles choses, on veut des choses confortables, on veut toujours plus de choses pour être bien. C'est ce que le monde nous partage comme valeur. La sécurité. Toujours le meilleur, toujours les plus de protection possible. Et Jésus dit, si tu veux me suivre, tu ne peux pas courir après ces choses-là. Tu ne peux pas rechercher constamment ces choses-là. Tu dois renoncer à ce que ton moi veut. Celui qui perdra sa vie, celui qui renoncera à lui-même et vivra pour l'œuvre de Christ. Celui qui perdra sa vie pour Christ et pour l'Évangile. Hein, ça ne veut pas dire de mourir ici, là. Ça se peut, mais ce n'est pas juste ça. C'est l'idée de ma vie, on l'a vu plus tôt, est crucifiée à la croix. Et attention, c'est intéressant, hein, Jésus dit, pas juste souffrir pour n'importe quoi, pas juste, c'est pas un appel à « vous devez souffrir à partir d'aujourd'hui ». Moi, je connaissais un monsieur, quand j'étais jeune à l'église, qui, avant d'être chrétien, vivait tout et disait « je dois souffrir pour que Jésus me pardonne ». Et il portait, il se faisait ses souliers avec des pneus qui faisaient extrêmement mal, il se fouettait, il faisait, c'était vraiment à l'extrême. Mais son idée, c'était, il comprenait, « Oh, je dois souffrir. » Et ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Ce n'est pas à provoquer la souffrance. Mais c'est comprendre que, c'est quoi notre attitude? C'est quoi notre motivation? Pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour suivre Jésus? Ou est-ce que je vis pour moi-même, pour mon bien-être, pour mon bonheur? Est-ce que je vis pour Christ, pour l'Évangile, pour son royaume? Dans Luc 9, 23, Luc ajoute un mot dans ce texte. Il dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a une belle image ici, chaque jour. Cette idée de constamment dire non à notre vieille nature, à mon vieux moi. Parce que c'est un défi de chaque jour. C'est pas ça arrive une fois, puis là c'est fini. Vous le savez, si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous saurez que c'est un combat constant entre le vieux moi qui veut son confort, qui veut son bien-être, et le nouveau moi qui veut suivre Jésus. Et à chaque jour, il y a cette idée de « je me charge de ma croix, je meurs à moi-même ». Poursuivre Jésus. Marc 8, 36, Jésus continue et dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Hein, Jésus pose ici une question rhétorique, dans le sens que la réponse, elle est très claire. Ça ne sert à rien de tout gagner si je perds mon âme. Il n'y a rien qui est suffisant pour racheter mon âme. Et la raison pourquoi Jésus nous appelle à porter notre croix, c'est pas juste qu'il dit « Hey, j'ai le goût de voir les autres souffrir. Si moi je souffre, vous aussi vous allez souffrir. » Jésus n'est pas en train de nous punir. Ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai beau accumuler tout l'argent, toute l'acceptation, toute la gloire et la reconnaissance, tout le confort, toute la sécurité. Donc, répondre à tous les besoins de ma vieille nature, qui pense à moi, 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 ça ne sera jamais suffisant pour sauver mon âme, pour me donner la vie éternelle. Et Jésus dit, plus tu cherches à sauver ta vie toi-même, plus tu vas la perdre. Mais plus tu abandonnes ta vie, tu acceptes de perdre ce que tu voudrais naturellement, plus que tu vas être ouvert à recevoir ce que je veux te donner, à recevoir la vie éternelle que j'ai pour toi. Donc, plus je meurs à moi-même, plus mon cœur est disponible pour ce que Jésus veut faire en moi. Et ses bénédictions, ses richesses. Jésus présente ici le choix qui s'offre à nous. En verset 38, il dit, « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus dit, il y a un choix. Vous pouvez chercher l'acceptation, l'approbation de cette génération que Jésus décrit comme étant adultère et pécheresse, ou l'approbation de Dieu le Père. Puis on voit tout de suite le décalage. Il dit, ah, vous cherchez la gloire que ces gens-là vous donnent, mais c'est tous des pécheurs, au lieu de chercher la gloire qui vient de Dieu. Et quand on fait juste ça, on fait, ben oui, le choix est facile. Mais Jésus dit, calculez le coût. Soyez conscient. Jésus est très honnête. Il va dire, vous pouvez préférer l'approbation et la récompense du monde pécheur plus que l'amitié et l'approbation de Jésus, mais ça va vous conduire au rejet final de Jésus, à la perte de notre âme à la fin. Et si on lit à l'envers, on comprend en partant de la fin, on comprend... Donc, il n'y a rien, absolument aucune approbation, aucune acceptation, aucune récompense de ce monde qui est suffisant pour racheter notre âme de l'enfer. Donc, il n'y a aucun avantage, aucun profit à gagner le monde entier. Même, puisque même détenir le monde entier, ça ne peut pas éviter de perdre notre âme. Même les personnes les plus célèbres, les plus connues, qui ont le plus de gloire, les plus riches, les plus bonnes, les plus confortables, à la fin, ils ne peuvent pas sauver leur âme par eux-mêmes. Donc, tous nos efforts pour sauver notre âme peuvent donner comme résultat que la perte de notre âme. Alors que d'accepter la croix et le risque de l'opposition, le risque de la honte, le risque de la souffrance, de la mort, parce qu'on aime Jésus et son évangile, mais Jésus dit, ça va sauver votre âme pour toujours. Donc, si il n'y a rien que moi je peux faire qui va sauver mon âme, mais de suivre Jésus, ça va me donner la vie éternelle. Mais chargeons-nous de notre croix. Renonçons à notre ancien moi. Et dans le nouveau moi, ce moi qui aime Jésus, c'est moi plus que la vie, eh bien, suivons-le. C'est l'appel de Jésus, c'est le message de Jésus. Le seul moyen de sauver mon âme, de sauver ma vie, eh bien, c'est d'y renoncer puis de la mettre entièrement entre les mains de Dieu, de suivre Jésus. Et finalement, oh, c'est une bonne nouvelle. C'est pas juste, hein, Jésus aurait pu juste dire, celui qui cherchera à sauver son âme la perdra. Bon, ben, bonne journée, messieurs. Puis là, nous laisser avec notre misère, où on essaye de se sauver soi-même et qu'on ne réussit jamais. Mais il y a une bonne nouvelle dans ça, que si vous me suivez, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que... c'est pas facile de suivre Jésus, et Jésus le dit, mais si vous me suivez, c'est la vie éternelle. Une vie éternelle qui débute dès maintenant. Une vie remplie de la gloire de Dieu, de ses bénédictions. Quand on choisit de suivre Jésus, on relâche le contrôle de nos vies. Si je renonce à ma vie, bien, je laisse Jésus la contrôler. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est pour ça que je parle de l'ancien moi et du nouveau moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voulez un reset à votre vie? Vous voulez une transformation? Suivez Jésus. Laissez-lui le contrôle. Abandonnez votre vie à lui. Ce que Jésus nous dit, par contre, c'est que si on veut vivre cette vie nouvelle, il y a un coût. Il y a un coût à suivre Jésus. Pas un coût pour gagner notre vie. Hein? Le but, ce n'est pas qu'on sauve notre âme nous-mêmes. Ça, c'est un message très clair à l'Église ici, un message qu'on répète régulièrement, c'est qu'il n'y a rien que je peux faire qui peut me sauver, incluant être la meilleure personne, incluant être la personne qui prie le plus, qui parle le plus fort, qui lit le plus sa Bible, ça ne me sauve pas. Mais Jésus dit, si tu arrêtes de chercher à te sauver toi-même, si tu me laisses agir, je te sauve. Et Jésus le fait à la croix. Il nous a pleinement pris tous nos péchés, il nous a pardonné. Il nous donne cette nouvelle vie en lui. Mais Jésus dit, me suivre, ce n'est pas facile. Il y a un coût à le suivre. Alors, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Jeune homme riche qui aimait Dieu, qui obéissait à la parole. Il va voir Jésus, il dit, oh, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Ben, obéis au commandement. » Il dit, « Je l'ai tout fait, ça. » Puis Jésus ajoute dans Marc 10, au verset 21, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » La même expression. Abandonne tout. Jésus est très clair avec ce jeune homme riche. Me suivre, ça va impliquer un coût. Jésus va nous révéler ce qui pourrait nous empêcher de le suivre, ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans nos cœurs, ce qui pourrait être la chose qu'on n'est pas prêt à abandonner ou le prix qu'on n'est pas prêt à payer ou qui va nous faire vraiment mal. Hein, la réponse du jeune homme riche, malheureusement, ça l'a été. Non, je suis pas capable. Et c'est pas le désir de Jésus. Le but, c'est pas juste de nous montrer ce qui est trop gros, mais c'est de nous faire réaliser. Ça se peut que ça arrive. Jésus va toujours nous poser la question, est-ce que tu es prêt à abandonner ceci pour me suivre? Êtes-vous prêt à suivre Jésus, même si ça implique de perdre des amis proches? Êtes-vous prêt à suivre Jésus, même si ça veut dire d'être rejeté par votre famille? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si ça veut dire de perdre votre réputation? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si ça implique de perdre votre emploi? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si ça implique de perdre votre statut social? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si ça implique de perdre votre confort? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si ça implique de perdre votre vie? Le père de mon épouse est beaucoup impliqué au Laos, dans des orphelinats et aussi de la formation de jeunes pasteurs. Et dernièrement, ils ont appris qu'un des pasteurs qui est impliqué là-bas, des gens qui sont... Le Laos, c'est un pays où c'est pas permis d'être chrétien. C'est quelque chose qui est fait en cachette. Et il y a des gens qui sont rentrés chez cet homme-là et qui l'ont tué. Pour sa foi. Et nous, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire être prêt à perdre sa vie, mais il y a des gens pour qui c'est très, très vrai. Et aussi dur que ça le peut être, ce qu'on a entendu par la suite des gens autour, malgré toute la peine, la souffrance, il y a eu un regain de « on veut continuer à faire l'œuvre de Dieu. On veut continuer à servir les jeunes et à les former. » Des gens qui disent, je suis prêt à suivre Jésus, peu importe le prix. Ça ne veut pas dire que ça va, toutes ces choses vont nous arriver. Hein, je ne suis pas en train de vous promettre de la souffrance puis de la mort. Mais suivre Jésus, ça nous implique d'être conscients que notre désir de le suivre va nous conduire dans des places inconfortables, nous amener à abandonner, à perdre certaines choses qu'on considère comme étant importantes. Et aussi dur que ça peut être à entendre, Jésus veut nous le dire. Es-tu prêt à me suivre? Voici le coup. Jésus est très honnête, hein? Il n'y a personne qui pouvait dire, après avoir entendu ça, « Mais là, comment ça, tout ça m'arrive? » Là, Jésus, c'est pas ça que je m'attendais. Jésus a été très honnête. Mais honnêtement, on veut répondre comme Pierre va répondre quand Jésus va lui dire. Quand toute la foule part, Jésus regarde ses disciples et dit, « Qu'est-ce que vous faites encore là? » Et Pierre va dire, « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus dit, « C'est pas facile de me suivre. » Mais ce que ça donne au bout est tellement merveilleux, est tellement mieux. Et j'ai invité les musiciens. Romains 6,6 nous dit, « Nous savons que notre vieil homme, mon vieux moi, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » À la croix, le vieux moi est mort. Mais des fois, il lutte, il essaye de revenir à la vie, il essaye de reprendre la place. Et ce matin, Jésus nous invite premièrement à calculer le coût de le suivre, à réaliser ce que ça implique. Hein, et ce matin, si vous êtes nouveau, vous faites « c'est dur ». Et même si vous êtes plus ancien, mais si c'est le premier message que vous entendez du Carrefour, il y a aussi des messages réjouissants, inquiétez-vous pas. Mais je trouve qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Au-delà de l'honnêteté, Jésus nous dit « c'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle ». Mais il veut qu'on réalise ce que ça implique. On ne veut pas d'un évangile bonbon. Il dit, voici toutes les bonnes choses, voici les bénédictions, hey, c'est la joie, puis la paix, puis ici on est tout le temps bien, puis il n'y a jamais de difficulté. Jésus est très clair, si vous entendez ça quelque part, ce n'est pas ce que Jésus enseigne, lui. Il dit, me suivre, ça implique de porter sa croix, ça implique de renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile. Mais Jésus dit, suis-moi quand même. Jésus nous appelle quand même à le suivre. C'est une invitation ce matin à renoncer à nous-mêmes, à nos désirs, à ce que notre vieille nature voudrait. Et parfois, on est là dans notre vie chrétienne. On a accepté de suivre Jésus. On dit « oui, c'est ce que je veux ». Mais on est en lutte constante avec ce qu'on voulait avant. Et on dit plus souvent « oui » à ce que notre vieil homme voudrait plutôt à ce que Jésus veut. Ce matin, Jésus t'appelle à crucifier ton ancien moi à la croix. Hein, notre vieil homme, Romains 6:6, a été crucifié avec lui. Nous sommes une nouvelle créature. Jésus nous appelle à dire non chaque jour à mon moi, à notre moi, pour dire oui chaque jour à son appel de le suivre. À me lever et dire, Seigneur, je dis non à mon ancien moi et je dis oui à te suivre pour une autre journée. Et chaque jour, je choisis de te suivre. Peu importe les difficultés, peu importe ce que ça implique, peu importe quand je ne comprends pas pourquoi, je continue de te suivre. Parce que je sais que c'est là que je trouve la vie éternelle. C'est une invitation à laisser Dieu nous transformer et nous révéler ce qu'il veut vraiment pour nous. Non pas ce que notre moi désire, mais ce qui est selon sa volonté. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans un monde où chacun fait ce qui lui pense, qui lui semble bon, où chacun fait ce qui lui apporte du bien maintenant, une satisfaction immédiate, mais on veut être de ceux qui préfèrent suivre Jésus, qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes pour le suivre et faire sa volonté. Hein, le texte le dit, sa volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voulez ce qui est parfait, vous voulez ce qui est agréable, vous voulez ce qui est bon? Bien, approchez-vous de Dieu, il va vous le montrer, il va vous montrer ce qui est bon pour vous. Vraiment bon. Du McDo, c'est bon sur le moment. Je sais, j'ai travaillé 7 ans chez McDo, j'en ai goûté. Puis j'aime encore ça, surprenamment. Tout le monde dit « Ah, c'est bon! » Mais à long terme, c'est pas bon. Il y a des choses, des fois, hein, spirituellement, c'est un peu la même chose, il y a des choses qui sont bonnes pour nous sur le moment, qu'on fait « Oh, wow, c'est bon! » C'est bien! J'aime ça quand tout le monde me regarde. J'aime ça tout recevoir pour moi. J'aime ça avoir toujours plus gros. Mais c'est pas bon à long terme. Alors que faire la volonté de Dieu, même si ça semble une souffrance sur le moment, même si ça semble difficile, Romains 12 nous dit, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia, Jésus. Seigneur, ce n'est pas un message facile que tu as pour nous ce matin. Mais c'est un message honnête, oh Dieu. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu ne fais pas juste nous dire « Suivez-moi et tout va être beau! » Mais tu es vrai, tu es authentique. Et tu as voulu être vrai avec tes disciples et tu continues de l'être aujourd'hui. Seigneur, tu nous invites à renoncer à nous-mêmes et prendre cette croix, Seigneur, avec tout ce qu'elle implique. Avec l'opposition, avec l'humiliation, avec la souffrance, avec peut-être la mort. Mais Seigneur, tu nous dis que si on te suit, ce qui est au bout, c'est la vie éternelle. Ce qui est au bout, c'est que notre vie est sauvée. Tu nous dis, Seigneur, que si on cherche par nous-mêmes à sauver notre vie, on va la perdre. Et Seigneur, ce matin, on veut entendre. On veut entendre ton esprit qui nous parle. Ton esprit qui révèle en ce moment à chaque personne le coup. Comme le jeune homme riche qui a dû faire face avec ce qui était pour lui un coup. Seigneur, tu nous révèles ce qui est pour nous le coup, Seigneur Dieu. Seigneur, alors que tu es honnête, Seigneur, en même temps, tu es là et tu dis, mais je suis avec toi. Suivre Jésus, c'est être avec Jésus. Et Seigneur, on veut te suivre. Ce matin, Seigneur, on veut dire, oui, je veux te suivre. Peu importe le prix, peu importe le coût. On désire plus, Seigneur, ta présence. On désire plus ta gloire que les choses de ce monde, mon Dieu. Seigneur, on te prie de nous donner, Seigneur, le courage, la force de porter notre croix, de te faire confiance en toutes choses, mon Dieu, de s'abandonner chaque jour à toi, de chaque jour renoncer à nous-mêmes. Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, mais seulement parce que tu fais de nous une nouvelle créature. Seulement parce que ton esprit en nous, Seigneur, nous donne la vie et nous donne la force d'avancer. Merci, Seigneur, parce qu'il y a de l'espoir en toi. Merci, Seigneur, parce que ta volonté, elle est bonne, Seigneur, elle est agréable et parfaite. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ce qui est vraiment bon pour nous. Pas juste être des gens qui répondent à leurs désirs et passions du moment, mais qui cherchent ta face, qui te suivent, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Amen.